Bonjour à toutes et à tous. Dernier jour de notre série consacrée au chantier économique de Joe Biden. Cette semaine, nous avons cherché comment corriger les inégalités aux États-Unis avec l'économiste Pierre-André Chiappori. Des inégalités liées à l'importance croissante de l'éducation sur le marché du travail, mais aussi à une fiscalité qui s'est progressivement éloignée de l'idéal de justice qui la caractérisait. C'est ce que nous expliquait hier Gabriel Zucman. Les États-Unis ont également été à la pointe de la lutte contre les monopoles et pourtant la concurrence recule depuis une vingtaine d'années dans le pays. C'est cet abandon des marchés libres en Amérique que nous allons décrypter jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Parler de la concentration de l'économie aux États-Unis, nous avons le plaisir de recevoir l'économiste qui a mis en lumière ce phénomène, Thomas Philippon, professeur de finance à la Stern School de l'Université de New York et chercheur associé au Center for Economic Policy Research à Londres. En 2014, il a été classé par le FMI comme l'un des 25 meilleurs économistes de moins de 45 ans et son ouvrage consacré à la cartélisation de l'économie est paru l'an dernier aux États-Unis. En fin d'émission, le journal de l'écho vous sera présenté par Xavier Martinet. Bonjour Thomas Philippon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Alors racontez-nous d'abord, si vous le voulez bien, comment vous en êtes venu à vous intéresser à la question des monopoles aux États-Unis.
En fait, il y a deux explications. Une qui est un peu personnelle. Quand je suis arrivé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, j'étais étudiant, donc j'avais un budget d'étudiant, donc très serré. Et je venais donc d'Europe et je me suis aperçu rapidement que aux États-Unis, un certain nombre de biens et services dont on a besoin quand on est étudiant, donc typiquement acheter un ordinateur, avoir une connexion Internet à la maison pour pouvoir travailler, et ensuite très rapidement aussi avoir un téléphone portable. Tous ces services étaient beaucoup moins chers aux États-Unis qu'en Europe, ce qui est assez paradoxal parce qu'en général, quand un pays est plus riche, il a tendance à avoir des services locaux qui sont plus chers. Mais là, c'était l'exception. Malgré le fait que les États-Unis étaient et sont encore à peu près 15-20% plus riches que l'Europe, ces services-là étaient moins chers.
Donc ça, c'est ce que vous avez observé à la fin des années 90 et après, ce que vous avez observé par la suite, c'est au contraire une hausse de ces prix des ordinateurs portables, des billets d'avion ou encore des abonnements téléphoniques.
Exactement. Alors les ordinateurs portables pas trop parce que l'avantage c'est que ça c'est des biens qui sont qu'on peut échanger au niveau international, donc les prix sont plus ou moins fixés sur les marchés internationaux. Donc du coup ça dépend, le prix d'un portable, le prix de la machine elle-même, soit l'ordinateur soit le téléphone d'ailleurs, dépend pas tellement de l'endroit où vous vivez parce que de toute façon on peut les exporter. Par contre les services, maintenant c'est quand je rentre en Europe que j'ai la même expérience, c'est-à-dire non seulement les Européens ont rattrapé leur retard au sens où ils sont pas plus chers que les Américains sur ces services-là, mais en fait, ils sont même beaucoup moins chers. Donc, si vous prenez concrètement, pour que les gens comprennent bien, c'est pas des différences qui sont marginales. Si vous payez 20 euros aujourd'hui pour votre abonnement mensuel de portable en France, pour le même abonnement aux États-Unis, vous payeriez au moins 40 euros, hein, le double. Donc, chaque mois, vous payerez 20 euros de plus à un monopole qui, pour le même service que ce que vous avez aujourd'hui, quand vous prenez votre abonnement à Free, Orange ou SFR.
Et vous vous êtes demandé pourquoi les prix avaient ainsi augmenté aux États-Unis, Thomas Philippon. C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait depuis une vingtaine d'années un véritable recul de la concurrence dans le pays.
Exactement. Alors, c'est là où la recherche plus universitaire a rencontré l'expérience personnelle. C'est que si. Donc là, le truc le plus frappant, c'est quand même dans les télécoms, parce que on connaît tous le prix de notre forfait d'abonnement mensuel. Du coup, c'est un prix qui est très visible, donc on le voit bien. Mais ma recherche académique universitaire, je me suis aussi intéressé plus généralement au taux de profit dans l'économie. Alors pas spécialement dans les télécoms, en général. Et là, le deuxième indice qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que si vous regardez le taux de profit des entreprises américaines, il est très élevé aujourd'hui. Il est très élevé depuis 20 ans d'ailleurs. Et il a augmenté sur les 20 dernières années. Il s'accompagne de valorisations boursières qui sont très élevées également. Donc on est dans un environnement où, si je résume, les entreprises font beaucoup d'argent, les marchés leur font crédit à des coûts très bas et en plus leurs actions ont des valeurs très élevées. Donc dans un environnement comme ça, normalement, on devrait voir un investissement assez élevé, un taux d'investissement élevé. C'est exactement ce qu'on a vu dans les années 90 avec les mêmes paramètres. Profit élevé, valorisation élevée, financement pas cher, on voyait un boom de l'investissement. Et ben dans les années 2000, on voit les premiers paramètres, on voit bien les profits, les valorisations, mais on voit pas l'investissement. Ça, c'est bizarre. Et donc, mais il se trouve que une réponse potentielle à ce paradoxe, c'est le pouvoir de monopole. Si la valorisation et les profits reflètent non pas une efficacité technologique, mais au moins en partie un pouvoir de monopole, alors ça expliquerait pourquoi on a la coïncidence de profits et de valorisation élevée et d'un investissement médiocre. Donc c'était le deuxième indice qui m'a mis la puce à l'oreille.
Et alors, pourtant, les États-Unis étaient, si je puis dire, bien partis, puisque, en termes de concurrence, du moins, puisque les dernières décennies du XXe siècle ont été marquées par la libéralisation de plusieurs marchés. Ainsi, en 1996, Bill Clinton ouvre à la concurrence les télécoms. Écoutez son discours du 2 juillet 1996.
Cette loi reconnaît qu'avec la liberté vient la responsabilité. Tout marché vraiment concurrentiel nécessite des règles. Ce projet de loi protège les consommateurs contre les monopoles. Il garantit la diversité des voix dont dépend notre démocratie. Et il améliore le bien commun. En vertu de cette loi, nos écoles, nos bibliothèques, nos hôpitaux recevront des services de télécommunication à un coût réduit. En 1957, le président Eisenhower a signé un autre projet de loi important. Un autre projet de loi semblable à celui-ci. Il a saisi les opportunités du moment, il les a rendues plus largement accessibles à tous les Américains, il a relevé le défi du changement, il a renforcé nos valeurs fondamentales et aspirations, et cela a été fait dans un esprit bipartisan et dans l'harmonie. La loi sur les autoroutes inter-États a littéralement rapproché les Américains. Nous étions connectés de ville en ville, de village en village, de famille en famille, comme nous ne l'avions jamais été auparavant. Cette loi a fait plus pour rapprocher les Américains que toute autre loi de ce siècle. Et ce même esprit de connexion et de communication est le moteur de la loi sur les télécommunications de 1996.
Que vous inspire ce discours de Bill Clinton, Thomas Philippon? Cette loi de libéralisation et celle qui la précède ont permis une augmentation de la concurrence. Il y a un certain nombre de géants aux États-Unis qui ont perdu des parts de marché.
Bah d'abord, bravo pour avoir trouvé cet extrait. Je crois que je savais, en fait, j'avais lu le premier discours il y a longtemps, mais j'avais un peu oublié. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça reprend tous les thèmes et ça montre également à quel point le diable est dans les détails. Donc, il dit en gros trois trucs. Il dit, premièrement, c'est comme Eisenhower, donc la construction des autoroutes qui ont effectivement connecté l'ensemble des Américains, fait dans un esprit bipartisan et pour préserver la concurrence. Et ce qui est vraiment frappant est, par rapport à maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, c'est à quel point les deux premiers points ont pas du tout marché, quoi. Donc, ce qui
C'est-à-dire?
s'est passé, c'est que quand ils ont passé la loi, en fait, ils ont fait un certain nombre de choix qui ont, à court terme, eu effectivement un impact relativement bon sur la concurrence. Mais la concurrence dans les télécoms aux États-Unis, en fait, elle était déjà en train de. La grande date d'avant ça, c'était le démantèlement de AT&T dans les années 80, qui avait déjà libéré la téléphonie de longue distance. Donc là, en fait, c'était la modernisation de l'ensemble de la régulation des télécoms. Et donc, ça partait de bonnes intentions. Et d'ailleurs, dans la loi de 96, il y a des choses très bien. Il y a aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais aussi les articles qui régulent la notion de liberté de parole sur Internet, donc qui s'applique à Facebook, Twitter et compagnie. Enfin, c'est un autre sujet qui, à l'époque d'ailleurs, était un peu passé sous le radar, qui maintenant devient super important. Mais donc, ce qui est intéressant dans la loi de Clinton, c'est qu'effectivement, il voulait moderniser l'ensemble. Mais on voit bien qu'une loi n'est rien sans son application. Et ce qui compte plus, en fait, que la loi elle-même, souvent, plus, si j'exagère, disons, ce qui compte autant, c'est la manière dont elle est appliquée ensuite. Donc, la loi elle-même, elle était très bien. Mais enfin, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé se reconstruire des monopoles dans les télécoms. Donc, la loi elle-même, elle était sur des fondements qui étaient assez sains. Mais ce qu'on a vu se dérouler après, c'est une reconstitution d'un certain nombre de monopoles, et notamment sur l'accès à Internet à la maison. Donc, juste pour que les gens, encore une fois, comprennent bien, un abonnement Internet en France, oublions la France, sur l'Europe en moyenne, un abonnement Internet, ça coûte à peu près $30 par mois, le haut débit Internet. En moyenne, hein, c'est la médiane à peu près. Aux États-Unis, c'est 65, donc c'est plus que le double. Si vous prenez un ménage médian en France, il a aujourd'hui à peu près 5 ou 6 choix pour acheter son haut débit Internet. Aux États-Unis, c'est moins de 2. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui vit littéralement sous un monopole, vous avez un choix, il y a juste une entreprise qui peut vous amener le haut débit à la maison, et puis si vous avez de la chance, vous en avez 2. D'accord? Donc le problème, c'est pas tellement la loi de 96, c'est le fait que ensuite, ils ont laissé les monopoles se créer. Parce que les régulateurs au niveau fédéral et au niveau des États n'ont pas fait leur travail.
Alors c'est intéressant ce que vous dites là, Thomas Philippon, parce qu'on observe le même phénomène avec le secteur aérien, une loi de libéralisation qui finalement débouche sur la formation d'un oligopole. Le président démocrate, je le rappelle, Jimmy Carter, avait décidé de libéraliser le secteur aérien en 1978. Écoutez les témoignages de voyageurs américains 10 ans après l'adoption de cet Airline Deregulation Act.
C'est terrible, c'est pire qu'avant. Trop de monde et bien sûr plus de retard. La dérégulation du trafic aérien, ça a posé des problèmes, mais ça en a résolu beaucoup. Je pense que plus de gens ont pu voyager. Notre tâche devient de plus en plus complexe parce que le nombre d'avions a considérablement augmenté. Nous travaillons 24 heures sur 24 maintenant. Alors qu'il y a quelques années, il y avait seulement des heures de pointe.
Voilà des témoignages diffusés sur Antenne 2 le 9 novembre 1988. Qu'est-ce qu'on peut dire, Thomas Philippon, sur l'impact de cette libéralisation du secteur aérien ?
Alors, sur l'aérien, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir avec d'ailleurs un thème qui était aussi dans le discours de Clinton d'avant, c'est que c'était bipartisan. C'est-à-dire, ça a commencé sous Carter, ça s'est fini sous Reagan. Et largement, ça a marché au sens où les prix des billets d'avion ont beaucoup baissé, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont pu se permettre de prendre l'avion. Donc effectivement, la première auditrice qu'on entendait dans l'interview, elle se plaignait qu'il y avait plus de monde dans les aéroports. Ah bah oui, c'est normal. Ça veut dire qu'avant, il y avait juste les très riches qui pouvaient prendre l'avion. Tout d'un coup, vous avez les classes moyennes qui peuvent prendre l'avion, ça fait plus de monde. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Donc ça a bien marché. Jusque dans les années 2000. Dans les années 2000, évidemment, l'événement phare, c'est le drame du 11 septembre. Donc après le 11 septembre, toutes les compagnies aériennes américaines sont dans le rouge, elles perdent tous des milliards. Donc du coup, il y a une vague de consolidation dont probablement le premier pas se justifie. C'est-à-dire qu'ils avaient 8 compagnies aériennes nationales en 2000. Donc on pouvait dire que 8 c'était trop et que après le 11 septembre, ils avaient besoin de consolider un peu. Donc on aurait pu dire on peut passer de 8 à 7 ou de 7 à 6, ça c'était défendable. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez lancé la machine, vous avez les avocats et les lobbyistes qui sont en route. Et du coup, ils sont allés de 8 jusqu'à 4. Évidemment, à 4, ça marche plus du tout. Parce que à 4, au niveau des États-Unis, ça veut dire qu'il y a plein de lignes où il y en a juste 2. Et à 2, vous faites de la collusion. C'est évident. Donc, les prix sont beaucoup trop élevés. Et ça se voit directement dans le taux de profit des compagnies aériennes américaines sur les vols domestiques, qui font des taux de profit qui sont entre 50 et 80% plus élevés que les taux de profit sur les vols domestiques européens.
Alors, il y a ce recul de la concurrence dont on parle, Thomas Philippon, depuis le début de l'émission aux États-Unis, mais il y a tout de même des secteurs qui restent concurrentiels dans le pays. On pense en particulier à Walmart, qui a accru ses parts de marché. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Oui, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous prenez l'ensemble des secteurs, c'est dans une économie aussi grande et complexe que l'économie américaine ou l'économie européenne, forcément, à chaque instant, vous aurez des acteurs qui sont en train d'évoluer vers plus de concurrence, d'autres vers moins de concurrence, d'autres qui sont en train de changer fondamentalement leur technologie. Donc, dans une économie complexe, il n'y a jamais une règle qui s'applique à tous les secteurs. Mais ce que je remarque, moi, c'est que si vous prenez la moyenne ou si vous prenez l'ensemble des secteurs, vous voyez que la tendance, le nombre, disons, la fraction de secteurs qui sont dans des dynamiques de concentration nuisibles aux consommateurs, elle est passée de négligeable à dominante dans les années 2000. Heureusement, il reste quelques exceptions. Donc, une exception intéressante, c'est le commerce de détail avec Walmart et Amazon. Et là, on voit bien d'ailleurs, j'aime bien cet exemple parce que il montre aussi la manière dont le capitalisme est censé marcher. C'est-à-dire que Walmart a augmenté ses parts de marché dans les années 90 en étant assez agressif sur les prix et surtout en investissant énormément dans la technologie. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un certain nombre de systèmes de gestion des stocks qui étaient vraiment révolutionnaires. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus plus efficaces que les autres. Et donc, ils ont pris des parts de marché. Mais ils l'ont fait tout en gardant des prix bas. Et en fait, leur taux de profit, pendant leur expansion, il était stable ou même il était en train de baisser. Donc, Walmart, ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que Walmart faisait une innovation qui permettait d'augmenter la productivité de 1%, et les prix pour les consommateurs baissaient de 1%. Donc ça, c'était la bonne concurrence. Jusque, disons, au début des années 2000. Et là, vous avez, si vous lisez la presse des débuts des années 2000, c'est un certain nombre de gens qui commencent à se dire, oh là là, Walmart devient trop gros. Ils ont bientôt 60% du marché sur les supermarchés. C'est trop, c'est inquiétant, il va peut-être falloir quelque chose. Et ils pensaient à l'époque peut-être d'ailleurs faire des actions antitrust contre Walmart. Et juste à ce moment-là, arrive Amazon qui débarque sur la scène et qui devient le concurrent numéro un de Walmart. Donc en fait, au moment où le monopole précédent commençait peut-être à devenir tellement dominant qu'il allait pouvoir commencer à utiliser son pouvoir de marché, eh ben, une autre entreprise arrive, débarque et commence à lui faire concurrence. Ça, c'est la manière dont le système est censé marcher. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'intervenir énormément, en général, c'est que quand le système marche bien, la plupart du temps, quand vous avez un monopole qui commence à se créer, vous avez un autre qui arrive pour lui faire concurrence.
Mais il y a des secteurs dans lesquels, justement, ça n'a pas marché. Et alors, c'est ce qui a entraîné
C'est ce qui ne marche plus depuis 20 ans aux États-Unis.
Voilà, c'est ce qui ne marche plus depuis 20 ans, nous dites-vous. Alors, comment l'expliquer, justement, ce phénomène de concentration de l'économie? Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a eu une défaillance des autorités de la concurrence? Et si oui, comment l'expliquer?
Voilà, qu'il y a une défaillance des autorités de la concurrence, là, je pense que le débat est clos, c'est évident que oui. C'est toujours facile de le dire a posteriori, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'ils auraient dû tout faire parfaitement en temps réel, parce qu'en temps réel, vous ne connaissez pas les vraies données du problème. Vous êtes toujours en train de deviner ce qui va se passer. Mais il y a quand même des exemples qui sont complètement évidents. Les compagnies aériennes, les derniers, quand ils sont passés de 6 à 4, c'était évidemment une mauvaise idée. Les télécoms, c'est pareil. Sur les GAFAM, c'est pareil. Autant sur les années 2000, on aurait pu poser des questions, autant depuis 2011-2012, c'est évident qu'ils auraient dû faire quelque chose. Donc là, ils ont attendu 8 ans. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils auraient dû le faire d'à 8 ans sur les GAFAM. Mmh. Alors, la question, c'est pourquoi? Alors, pourquoi ça, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment une question intéressante. C'est aussi là où je trouve que la comparaison avec l'Europe est intéressante. Il y a vraiment plusieurs raisons. Une raison, directe, disons, c'est le fait que, les lobbyistes ont pris plus de poids à Washington. D'ailleurs, pas seulement à Washington, mais aussi dans les capitales des États. Et alors ça, c'est une tendance qui commence aussi dans les années 2000. Je pense pas qu'on ait une explication parfaitement complète de ce phénomène. Mais si vous regardez dans les données, les dépenses de lobbying ont doublé ou triplé en fraction du PIB sur les 20 dernières années. Ça passe en partie par du lobbying direct, en partie par le financement des contributions des entreprises pour les dépenses des élections. Les élections elles-mêmes, leur coût a beaucoup augmenté. Donc tout ça, ça se passe au même moment, sans qu'on sache vraiment quelle est la poule, quelle est l'œuf. Mais ce qu'on voit à la fin, c'est que pour être élu, ça coûte très cher. Il vous faut de l'argent et l'argent, il vient en partie des entreprises. Une fois que les entreprises ont payé votre campagne, elles ont accès à vous quand vous êtes élu. Ça veut dire qu'elles ont au moins la possibilité de faire valoir leur point de vue auprès de vos conseillers ou même auprès directement des hommes politiques. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que du coup, en moyenne, ils commencent à prendre des décisions qui sont en faveur des monopoles existants. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est assez frappant. La deuxième grosse différence avec l'Europe, c'est le rôle des juges. Concrètement, en Europe, si prenez la Commission européenne, si elle veut se plaindre, si elle veut intenter une action contre un monopole, elle doit évidemment présenter ses arguments, mais ensuite, une fois qu'elle a conclu, par défaut, sa décision s'applique et le monopole peut faire appel face à un juge pour peut-être défaire la décision de la commission. Alors qu'aux États-Unis, l'ordre est inversé, c'est-à-dire le gouvernement ne peut rien faire tant qu'un juge n'a pas approuvé sa décision. Et donc ce renversement de l'ordre fait que c'est plus difficile pour les Américains de faire une action contre un monopole que la Commission européenne.
Et puis il y a peut-être une explication plus théorique, Thomas Philippon, cette question des juges est importante, mais il y a aussi, vous nous le dites dans votre livre, l'influence de l'école de Chicago aujourd'hui, et notamment peut-être cette influence aussi alors sur les économistes, mais peut-être aussi sur les juges.
Tout à fait, oui, c'est pour ça. Et donc ce qui se passe exactement, c'est ça, c'est que depuis les années 80, les juges américains sont devenus plus conservateurs dans leurs décisions d'antitrust. Et c'est en partie sous l'influence de ce qu'on appelle aujourd'hui, pour simplifier, l'école de Chicago. Donc là, on revient au début des années Reagan. Donc ce qui se passe à l'époque, c'est que vous avez des économistes qui regardent les décisions antitrust des années 60 et 70, qui étaient quand même très activistes à l'époque. C'est vrai, les juges et les autorités antitrust étaient très activistes. Et donc vous avez un certain nombre d'économistes qui regardent ces décisions des années 70 et qui disent « Non, mais c'était un peu n'importe quoi, là, ils tirent dans tous les coins ». Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles bien établies. Il faut simplifier tout ça et revenir à un processus avec plus de règles. Et la seule règle qui est intéressante, c'est le bien-être du consommateur. Donc, on va se focaliser là-dessus, l'efficacité des marchés et le bien-être des consommateurs. Et ce qui était au départ un argument valide. C'est ça qui est frappant toujours. C'est que, en général, tout part d'un argument valide. Le problème, c'est quand on commence à tirer à l'extrême un argument qui était valide à son origine. Et donc, de cet argument valide qui était de dire peut-être qu'on en faisait trop sur l'antitrust dans les années 70, ils en sont allés à ne faisons plus rien. Et ils ont convaincu les juges de manière délibérée, d'ailleurs, parce qu'ils faisaient des séminaires où ils prenaient des juges dont ils savaient qu'ils avaient un beau potentiel pour leur expliquer comment il fallait faire l'antitrust. Ce qui fait que la population des juges, notamment sur les notifications antitrust, est devenue de plus en plus conservatrice entre, disons, le milieu des années 80 et le milieu des années 2000. Ce qui fait que ceux qui sont aujourd'hui en charge des décisions, ils ont un biais qui consiste à dire ne faisons rien et laissons les entreprises se consolider par défaut.
Alors il y a tout de même eu un procès important pour violation du Sherman Act, qui est donc la législation antitrust américaine. Ce procès, c'est celui de Microsoft. Écoutez Bill Gates, le PDG de Microsoft, après la condamnation de l'entreprise pour abus de position dominante le 3 avril 2000, suivi de Mike Petit, le porte-parole d'un lobby industriel qui soutenait lui les concurrents de Microsoft.
Malgré cette décision, nous pensons que les tribunaux concluront en fin de compte que toutes les actions de Microsoft ont été complètement légales et bonnes pour les consommateurs. Nous ne pensons pas que cette décision correspond à la réalité du secteur de la haute technologie, à savoir une concurrence intense, une innovation rapide et de nombreux avantages pour les consommateurs. Microsoft se défend en disant que les choses ont changé, que le marché a changé. Mais le fait est que dans le marché des systèmes d'opérateurs et celui des applications, où Microsoft détient un monopole, leur part de marché s'est accrue de manière constante depuis le début de ce procès. En ce moment même, ils détiennent plus de 95% de ces deux marchés. Leur marge de profit, issue de Windows, s'élève au taux remarquable de 78%. À tous les égards, ils constituent un monopole. À tous les égards, ils ont violé le Sherman Act.
Thomas Philippon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce procès Microsoft? Il a eu un fort retentissement, mais il est peut-être plutôt l'exception que la règle?
Il est certainement devenu l'exception jusqu'à le mois dernier. Parce que ce qui est frappant, c'est que quand on a ressorti finalement l'armada des actions antitrust là, contre Google et Facebook très récemment, la référence, c'est immédiatement le procès Microsoft. Alors, le procès Microsoft, il était déjà intéressant pour plusieurs évolutions importantes. Un argument que d'ailleurs Bill Gates fait dans son intervention là, c'est de dire non, le monde a changé, le marché est différent, donc du coup les vieilles règles ne s'appliquent pas. Donc ça, c'est un argument qui est vieux comme le monde. Systématiquement, tous les monopoles depuis qu'on a commencé à faire de l'antitrust il y a 150 ans, tous les monopoles commencent par dire non, vous comprenez rien, le marché a changé, donc les vieilles règles ne s'appliquent pas. Donc déjà ça, c'est intéressant, mais ça veut juste dire que ça, c'est vraiment des éléments de parole qu'il faut juste oublier parce que c'est n'importe quoi. Alors, la vérité, c'est que l'économie ne change pas tellement, la technologie change beaucoup, mais les problèmes économiques pas tellement. Si vous regardez l'ensemble des problèmes qu'on a avec Google et Facebook, même Amazon ou Microsoft, les problèmes économiques eux-mêmes, ne sont pas très différents de ce qu'on a dans plein d'autres économies avec des effets de réseau. Les principes s'appliquent. La technologie est différente, ça c'est vrai. Mais donc l'argument qui dit tout est nouveau, il faut surtout pas venir nous embêter parce qu'on est dans un marché nouveau, ça c'est un argument vieux comme le monde et qui est faux.
Alors, en revanche, un argument peut-être un peu plus fort, c'est celui qui consiste à dire que cela profite aux consommateurs. Ça, c'est ce que dit Bill Gates.
Et vrai, exactement. Et c'est toujours vrai. Le seul truc, c'est que il faut pas confondre. L'antitrust, c'est pas un argument moral. On n'est pas en train de dire que Monsieur Gates était quelqu'un de mauvais. Évidemment, c'est difficile quand vous êtes un entrepreneur, vous avez créé une entreprise incroyablement efficace et brillante comme Microsoft ou Apple ou Google ou ce que vous voulez. Ces gens-là sont fiers de ce qu'ils ont fait. C'est normal, ils ont raison. Mais on n'est pas en train de leur dire qu'ils sont des monstres. On est juste en train de leur dire que il y a des règles qui s'appliquent. Et de toute façon, même si vous êtes le meilleur des entrepreneurs du monde, à un moment, vous aurez trop de pouvoir. Et l'antitrust, ça sert à ça. C'est pas un argument moral. C'est pas un argument qui dit, c'est parce que vous avez des choses, c'est parce que vous avez été méchant qu'on vient vous punir. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'on se projette dans le futur et on veut garder une économie dynamique. Donc, on ne veut pas, même l'entrepreneur avec les meilleures intentions du monde, on ne veut pas qu'il devienne le maître du monde. C'est ça, l'antitrust. Et donc, du coup, C'est l'argument qui dit que ça profite aux consommateurs. Il est vrai. Toutes ces entreprises ont commencé par profiter aux consommateurs. C'est comme ça qu'elles sont devenues grosses. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va continuer à profiter aux consommateurs. Ça ne veut pas dire que on ne veut pas restreindre leur pouvoir de monopole.
Mmh, et à terme, ça peut avoir des
sur Microsoft.
Allez-y.
C'est quand même important aussi, c'est de voir que c'était. Est-ce que ça a marché ou pas le procès Microsoft? Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que la réponse, c'est totalement mi-chèvre mi-chou. C'est vraiment le verre d'eau à moitié plein, parce que on peut dire que ça n'a pas marché parce qu'en gros, troisièmement, Microsoft n'a pas été démantelé et deuxièmement, Netscape était mort déjà au moment où le procès a eu lieu. Donc on est arrivé après la bataille, quoi. Ça c'est l'argument pour dire que ça n'a pas marché. L'argument pour dire que ça a marché, c'est que malgré tout, sur les 5 années qu'on suit le procès, Microsoft a été beaucoup moins agressif dans la manière dont, ou bien il faisait des acquisitions d'entreprises innovantes, ou bien il empêchait l'émergence de concurrents sur un certain nombre de marchés par des pratiques commerciales hyper agressives, comme ce qu'ils avaient fait avec Netscape, par exemple. Et ça a créé la place, ça a créé un appel d'air pour que de nouvelles entreprises puissent se développer, notamment à l'époque d'ailleurs Google. Mmh. Et donc c'est exactement ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger d'une action antitrust simplement en disant est-ce qu'on arrive à couper Facebook en deux, par exemple. La réponse c'est probablement pas, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qu'on veut, c'est créer des conditions où la concurrence est saine.
Et permettre
que leur taper sur les doigts.
Permettre que la concurrence soit réelle afin qu'il n'y ait pas de conséquences sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur l'emploi et sur l'innovation. Mais alors, comment le pays du libre marché s'est-il éloigné ainsi de la concurrence et comment lutter aujourd'hui contre ces monopoles aux États-Unis? On continue à en parler dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho? Stéphane de Rocchini.
Quel est le regard? J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous de rock. Quel est le regard? J'ai changé d'époque, comme on s'allémare sur les starting blocks. Je suis ad hoc, j'aurai le gros cigare, en or, les panchocs. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, pour rentrer dardard dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars. Ici, New York. Ici, superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfance de l'art, c'est le falacoque. À moins qu'on la star, au détour d'un bloc, et son cri écarte. Façon jambon du rock.
Claude Nougaro et son titre Nouga York sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Thomas Philippon qui a documenté, chiffre à l'appui, le retour des monopoles aux États-Unis. Alors pour bien comprendre ce que la situation actuelle a d'inattendu outre-Atlantique, il faut revenir aux origines de la législation antitrust américaine à la fin du 19e siècle. Dans quel contexte est-ce que le Congrès adopte cette loi Sherman en 1890, Thomas Philippon, et que prévoyait alors cette loi ?
Donc à l'origine, c'était les trusts. Antitrust, ça vient de la notion de trust. Un trust, c'est un groupe d'entreprises qui se mettent d'accord pour carteliser un marché. Et donc, en général, c'est les entreprises les plus dynamiques et dominantes qui le font. Typiquement, à la fin du 19e américain, les entreprises qui avaient des effets de réseau, c'était l'énergie, le transport de pétrole, ou bien les compagnies... les compagnies de chemin de fer. Donc ça s'est appliqué pas mal à ces entreprises-là. Mais le concept de trust était général, et donc au fur et à mesure de l'histoire américaine, ils l'ont appliqué aux entreprises qui étaient dominantes à leur époque.
Mais il y avait moins cette idée de protéger le consommateur que cette volonté de protéger la démocratie américaine en évitant que des acteurs soient trop puissants.
Oui, je pense que historiquement... La distinction entre, disons, l'économie politique et le fait qu'on se soucie du pouvoir d'une entreprise, de son pouvoir politique, et la notion de protection du consommateur avait probablement, je pense, à peu près le même poids à l'origine. Aujourd'hui, on est plus focalisé sur le pouvoir, sur la protection du consommateur.
Parce le pouvoir d'achat.
Parce qu'on pense qu'on s'est réglé l'autre problème de manière un peu différente. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que si on pense qu'une entreprise a trop de poids au niveau politique, eh ben, ce qu'il faut, c'est réformer les lois sur le financement des campagnes. C'est pas forcément l'antitrust qui est la solution. Mais c'est sûr qu'à l'origine, les deux étaient là. Et les deux sont valides. C'était aussi des économies moins diversifiées qu'aujourd'hui, hein. Donc, je veux dire, la notion de concentration politique était aussi beaucoup plus forte. On retrouve un petit peu cet argument quand on regarde Google et Facebook aujourd'hui et Twitter, disons. Mais dans des circonstances un peu différentes. Par contre, la notion de protection du consommateur, elle est là depuis le début. Et c'est toujours la notion fondamentale aujourd'hui.
Alors l'action antitrust n'a cessé de se renforcer aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Les régulateurs ont ainsi démantelé en 1914 la Standard Oil qui contrôlait environ 90% du raffinage et de la distribution du pétrole aux États-Unis. Écoutez cet extrait du film There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson sorti en 2007 et les explications de Paul Horowitz qui est écrivain et biographe de John Rockefeller, le fondateur de la Standard Oil.
Vous êtes là pour me racheter mes concessions.
Oui.
Et après, je ferai quoi pour m'occuper ?
Je ne sais pas ce que vous pourriez faire.
Mais à ma place, si Standard vous offrait 1 million, vous demanderiez pourquoi ? Alors pourquoi ?
Vous savez pourquoi.
Eh bien, vous feriez mieux de gratter la terre et de chercher comme nous le faisons tous, au lieu de racheter la sueur et le sang des autres.
J'ai gratté la terre comme toi, mon gars.
Vous réduirez vos frais de transport ?
Nous ne les maîtrisons pas, c'est l'affaire de la compagnie des chemins de fer.
Elles vous appartiennent pas encore. Hein?
Bien.
Bien sûr que si. Bien sûr que si.
Rockefeller n'a jamais été un producteur de pétrole. Il n'a pas pris le risque non plus d'innover dans les nouvelles technologies.
Risk-taker in that sense. What he was an organizer and...
Rockefeller était un organisateur. Il symbolise ce qui se passa aux États-Unis à cette époque, l'organisation et la centralisation du pouvoir économique. Rockefeller s'est glissé entre le producteur et le consommateur.
Thomas Philippon, l'antitrust américain a été très puissant par le passé, comme le montre le démantèlement de l'empire pétrolier Rockefeller.
Oui, alors d'abord, There Will Be Blood, le film a ses... vos auditeurs l'ont pas vu, je pense que c'est le meilleur film des 20 dernières années, donc je recommande chaleureusement. C'est le portrait le plus incroyablement précis et intéressant de la société américaine dans son ensemble, largement au-delà d'antitrust. Donc si vous avez pas vu ça, pour les fêtes de fin d'année, je vous conseille ce film.
C'est un excellent film, en effet.
Donc après sur Rockefeller, alors ça c'est vachement intéressant. Bon, premièrement, je suis un petit peu en désaccord avec son biographe. C'est pas vrai que la Standard Oil n'était pas innovative. En fait, si vous regardez dans les données, le taux de croissance de la productivité de Standard Oil, c'était impressionnant. Ils ont innové. Ils ont pas innové la, ils creusaient pas des puits, mais simplement ils innovaient au sens de la distribution et notamment honnêtement, si vous regardez la productivité, ils ont fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire que le prix d'acheminer le pétrole, là où il est utile, a beaucoup baissé grâce à Standard Oil. Donc, de ce point de vue-là, Standard Oil, c'est un exemple typique. C'est-à-dire que même dans le cas de Standard Oil, vous savez, quand on regarde le passé, on a toujours tendance à le simplifier en disant, oh, tout était très simple à l'époque. Mais c'est faux. C'est-à-dire, l'argument de dire, ah oui, mais Standard Oil, ça a beaucoup bénéficié aux consommateurs. Mais il était complètement vrai à l'époque. Ça a beaucoup bénéficié aux consommateurs, Standard Oil. Parce qu'ils ont fait des innovations technologiques sur la distribution qui étaient absolument excellentes. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus dominants. Et ça n'empêche pas le fait qu'une fois qu'ils sont devenus dominants, eh ben ils ont eu trop de pouvoir. Et donc, on leur a tapé dessus après. Et donc, de ce point de vue-là, ça reste très moderne. Le truc qui est très différent par rapport au problème qu'on a aujourd'hui, c'est la notion de produit. C'est-à-dire, dans le cas de Standard Oil, c'était quand même c'est un produit unique. C'est-à-dire, vous avez le pétrole. Donc, c'est un marché où les biens ne sont pas différenciés. Et donc, si vous avez 90% du marché, ben, vous avez 90% du marché. Il n'y a pas de doute. C'est assez facile à définir. Le problème d'aujourd'hui, si vous appliquez cette grille de lecture au grand monopole aujourd'hui, c'est que ce sont des produits très différenciés. C'est-à-dire entre Android et iOS. Okay, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est un peu différent? Bah, c'est un peu différent, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on compare la part de marché d'Apple dans l'ensemble des téléphones portables? Si vous prenez juste le volume de le nombre de téléphones portables qu'utilisent le Apple versus disons Android, bah vous avez qu'Apple, c'est pas très gros. Sauf qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc si vous prenez en part de pondéré par les profits, c'est beaucoup plus élevé. Puis si vous voyez dans certains pays, c'est beaucoup plus élevé. Pareil pour Google, pareil pour Amazon. Tout ça, c'est les entreprises qui offrent des gammes de produits très différenciées. Donc la différence avec l'époque de Rockefeller, c'est que c'est la complexité des biens et services qui sont offerts qui fait que c'est plus difficile de définir ce que c'est qu'un marché. Prenez Amazon. La part de marché d'Amazon sur les ventes en ligne, elle est très élevée. Mais sur les ventes, si vous additionnez ce que vous achetez en ligne et ce que vous achetez en vous déplaçant dans un magasin, ben c'est beaucoup plus bas. Quel est le bon paramètre?
C'est une complexité qui rend effectivement extrêmement difficile la lutte aujourd'hui contre les monopoles que sont les géants du numérique. On va y revenir, notamment aux États-Unis. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté des États-Unis, on l'a vu, Thomas Philippon, l'effort contre les monopoles s'est progressivement relâché. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le phénomène inverse qui s'est produit en Europe, à tel point qu'aujourd'hui, les marchés européens sont plus concurrentiels.
En moyenne, oui. Pas tous, mais je pense que ce qui est absolument certain, c'est que les marchés européens sont plus concurrentiels aujourd'hui, et donc les consommateurs européens dans leur ensemble ont plus de choix à des prix plus bas aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je pense que, donc ça, c'est pour ce cas, il n'y a absolument aucun doute. En termes relatifs, ça s'est amélioré par rapport aux États-Unis, et en termes absolus, je pense qu'il y a un certain nombre de marchés qui sont de manière absolue plus concurrentiels en Europe aujourd'hui qu'aux États-Unis. Les télécoms, c'est évident. Le transport aérien. D'ailleurs, compte tenu du transport aérien, encore une fois, c'est un écosystème, parce que une des raisons pour laquelle l'aérien est concurrentiel en Europe, c'est parce que le train est efficace. Donc, quand vous avez un train efficace, ça fait de la concurrence dans l'aérien directement. Donc, c'est pour ça que la division de marché n'est pas totalement évidente. Et c'est pour ça qu'il faut regarder l'ensemble de l'écosystème. Mais je pense que dans tous ces domaines, on a beaucoup amélioré la situation et on est dans une situation où les consommateurs européens payent beaucoup moins cher que les consommateurs américains pour un certain nombre de biens et services.
C'est assez intéressant et surprenant tout de même, Thomas Philippon, qu'on assiste ainsi en Europe à une concurrence plus forte, alors même que cette loi antitrust, elle a d'abord apparu aux États-Unis, elle a ensuite inspiré la législation européenne. Du côté de l'Europe, l'idée c'était de garantir l'intérêt commun, mais aussi l'égalité entre les pays au moment de la construction européenne. C'est ce qui explique cette importance accordée à la concurrence.
Je pense que oui. Alors ça, c'est la thèse que j'ai faite dans mon livre. C'est pour bien comprendre la question, il faut voir ça comme un paradoxe. C'est-à-dire, si vous prenez l'histoire des pays européens qui ont participé à la fondation de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, à part le Royaume-Uni, aucun de ces pays n'a une tradition de marché libre et de concurrence non faussée. Certainement pas la France, certainement pas l'Allemagne. Donc, vous vous dites, OK, je vais prendre 15 de ces pays dont aucun n'a une traduction de marché libre et de concurrence non faussée. Si je leur demande aux 15 ensemble d'écrire les règles pour le marché commun, on aurait pu s'attendre, naïvement, à ce qu'ils écrivent des règles qui ressemblent en gros à ce qu'ils ont fait à la maison. Ça aurait été l'hypothèse la plus vraisemblable. Ils vont faire un truc qui va être en gros la moyenne de ce qu'on voit dans l'ensemble des autres pays. Et ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont écrit des règles au niveau européen qui sont fondamentalement différentes de celles qu'ils avaient dans chaque pays respectif. Comme si le fait de faire le choix ensemble à 15, enfin dans le nombre de pays a changé au cours du temps, maintenant on est à 27, mais bon, en moyenne disons on était 15, au moment où les décisions ont été prises. Donc ces 15-là, au lieu de répliquer au niveau européen ce qu'ils faisaient chacun chez soi, ils ont fait un truc complètement différent au niveau européen. Ils ont décidé d'avoir un régulateur indépendant, donc qui soit pas influencé ni par les politiques ni par les lobbies, en tout cas au moins à court terme. Évidemment, tous les 5 ans, on renouvelle, mais à court terme, il y a une grande indépendance du régulateur pour protéger les consommateurs, et d'avoir de mettre le principe de concurrence libre et non faussée comme autant au cœur de l'Europe. Et je pense que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que la concurrence et surtout l'indépendance des régulateurs, c'est la meilleure manière de protéger l'ensemble des pays européens contre une coalition qui pourrait se mettre contre les uns et les autres. Donc si vous êtes un Allemand ou un Français, vous pouvez vous dire ça serait bien si les régulateurs européens prenaient des décisions qui soient en faveur de nous. Donc les Français aimeraient bien qu'on prenne des décisions en faveur des Français, les Allemands en faveur des Allemands. Mais vous savez bien que dans un monde où vous êtes en coopération dans un même marché avec les Allemands, ce ne sera pas toujours vous qui allez gagner l'arbitrage régulateur. Et donc, de temps en temps, ça sera les autres. Ce qui fait que, quand vous posez la question dans ces termes-là, vous pensez que souvent, vous avez plus à perdre d'avoir un régulateur qui soit influencé que vous avez à gagner quand c'est vous qui avez la chance de pouvoir l'influencer. Et donc, du coup, vous mettez d'accord pour dire que, très bien, puisque c'est comme ça, on va créer un régulateur indépendant. Comme ça, personne ne peut influencer l'arbitre.
Et alors, c'est en s'appuyant sur ce droit de la concurrence que l'Europe a engagé la bataille contre les géants du numérique.
14 points, c'est la différence d'imposition qui existe aujourd'hui en Europe entre les géants du numérique et les PME françaises ou européennes. 14 points de plus d'imposition pour les PME par rapport aux géants du numérique. C'est inacceptable, c'est injuste, c'est cette injustice que nous corrigeons avec la taxation sur les géants du numérique. Cette taxation, elle est simple. Elle ne va porter que sur les plus grandes entreprises, c'est-à-dire, pour répondre à votre question, les entreprises qui font 750 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique dans le monde et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique en France. Le taux sera un taux unique à 3%. Par souci de simplicité et parce qu'un taux progressif aurait posé des difficultés juridiques importantes. Cette taxation va rapporter 400 millions d'euros la première année et jusqu'à 650 millions d'euros à partir de 2022.
Voilà, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'était le 6 mars 2020. La France a donc mis en place cette fameuse taxe GAFA. En parallèle, la Commission européenne a pris des sanctions contre Google pour abus de position dominante. Et enfin, le Digital Market Act, qui a été lancé par Bruxelles ce mois-ci, donne à la Commission de nouveaux outils pour mieux faire respecter la concurrence dans l'Union européenne. Voilà qui pourrait inspirer les États-Unis, mais aussi la Chine, Thomas Philippon.
Ah, complètement. Donc, alors, la taxe GAFA française, elle est symbolique. Hein. Dire 600 millions d'euros, c'est vraiment des cacahuètes. Mais je pense que c'est un symbole aussi, c'est un symbole utile. Mais en termes économiques, c'est un symbole. Au niveau européen, par contre, ça peut être potentiellement beaucoup plus important. Et d'ailleurs, heureusement qu'on agit au niveau européen sur ces sujets-là, parce que le marché numérique, il est évidemment européen. Ensuite, les États-Unis se réveillent finalement sur le GAFAM. Donc, ils vont eux-mêmes intenter des procès. Et alors, comme d'habitude aux États-Unis, quand ils se réveillent très fort. Donc, pendant 20 ans, ils n'ont rien fait. Et là, quand ils se réveillent, du coup, ils tapent très fort. Et ce qui fait que, ce que vous regardez aujourd'hui, ce qui est sur la table contre Facebook et Google au niveau fédéral de nos États, c'est extrêmement agressif. C'est plus agressif que ce qu'on a fait en Europe. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aussi juger de deux approches différentes. En Europe, on reste sur une approche où on favorise la régulation. Les Américains, ils sont une approche où ils veulent démanteler. Donc, ils vont essayer de démanteler Facebook et peut-être sur Google de mettre des restrictions aussi extrêmement importantes. En Europe, on est plus en train de dire on va créer des règles et on veut que ces règles soient respectées. Je pense que la vérité, c'est que les deux approches sont valides et que, de toute façon, une solution efficace devra impliquer les deux. Il faut à la fois une menace de démantèlement et de la régulation. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir ce qui marche et ce qui ne marche pas des deux côtés. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Américains sont revenus dans le jeu. Alors évidemment, pour être honnête, la raison pour laquelle ils ont tapé sur les GAFAM aujourd'hui, c'est parce que c'est un peu le plus petit multiplicateur commun entre les républicains et les démocrates. C'est-à-dire qu'ils vont jamais se mettre d'accord pour faire quelque chose sur l'aérien, les télécoms, l'énergie, etc., ou la santé, qui sont quand même des énormes problèmes de monopole aux États-Unis, qui sont beaucoup plus significatifs pour les consommateurs américains d'ailleurs. Et en termes quantitatifs, si vous voulez faire quelque chose pour aider les ménages américains à finir leur fin de mois, vaut mieux travailler sur la santé que sur les GAFAM. Mais bon, l'avantage des GAFAM, c'est que ils se sont mis tout le monde à dos, républicains comme démocrates, ce qui fait que au moins il y avait un accord entre les différents gouverneurs et différents régulateurs entre États, à la fois démocrates et républicains, pour aller taper sur les GAFAM, ce qu'ils font aujourd'hui, et ce qui sera utile aux Européens aussi, parce qu'on verra ce qui marche et ce qui marche pas.
Et puis ce qu'on constate, c'est que même du côté de la Chine, il y a des choses qui bougent. Au mois de novembre, le gouvernement chinois a annoncé lui aussi vouloir s'attaquer au monopole de ses propres géants du numérique. Et Pékin a déjà infligé de premières amendes. Alors, des amendes tout à fait symboliques, hein, extrêmement faibles, mais c'est tout de même intéressant. Des amendes à Alibaba, ainsi qu'à China Literature, une filiale de Tencent. Ça, c'était au mois de décembre. Mais alors, du côté
oui,
des...
Alors la Chine, c'est pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Hein, parce que la Chine, c'est en gros Xi Jinping qui décide que les entrepreneurs, enfin les deux Chinois les plus célèbres, c'est Xi Jinping et Jack Ma, ok. Et Xi Jinping ne supporte pas qu'on lui fasse de l'ombre, donc du coup il a décidé d'aller emmerder Jack Ma. C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la démocratie.
Jack Ma, le patron d'Alibaba.
Ouais. Donc concrètement là-bas, c'est quand même. En plus, ce qui est frappant, c'est que l'évolution de la Chine en ce moment, je pense qu'il y a vraiment rien, il y a rien de positif qui sort. Parce que si vous regardez, ce qui était vachement intéressant en Chine, c'est que entre Tencent et Alibaba, il y avait une concurrence féroce. Les deux entreprises ne peuvent pas se supporter. Elles se tapent dessus tout le temps. Et d'ailleurs, les deux fondateurs aussi sont très en concurrence, disons. Et c'est très bon pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, les régulateurs chinois avaient décidé d'avoir... Ils avaient pris une décision stratégique, c'est qu'ils voulaient avoir leur propre Internet. Okay. Ensuite, donc ils ne voulaient pas les Américains là-bas. Ensuite, mais ce qui était intéressant, c'est que dans leur marché domestique, ils avaient quand même compris la vertu de la concurrence. Ce qui fait que, si vous regardez les gros monopoles, notamment donc Tencent et Alibaba, ils étaient en train de se tirer la bourre très fort sur un grand nombre de marchés, ce qui fait qu'il y a à la fois une innovation en termes de qualité et d'offres de services et des prix extrêmement bas sur des services numériques qui sont extrêmement avancés et qui bénéficient aux consommateurs et aux familles chinoises de manière impressionnante. Donc ça, c'était vraiment l'exemple type de la concurrence qui marche bien. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Xi Jinping, il n'aime pas la concurrence, il n'aime pas les marchés libres, et donc du coup, il veut réétablir le contrôle du Parti communiste sur l'économie chinoise. Et donc, il voit Alibaba comme étant un concurrent au niveau politique.
Mais c'est intéressant qu'il utilise cette même rhétorique de la lutte contre les monopoles qu'on peut entendre du côté des États-Unis ou du côté de l'Europe. Alors, on arrive presque au terme de l'émission. Je voudrais vous entendre, Thomas Philippon, sur ce que peut faire Joe Biden vis-à-vis de cette question. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau président démocrate à la Maison-Blanche pourrait signer le retour en puissance de l'antitrust aux États-Unis?
Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça a commencé avant qu'il arrive. Et c'est une bonne nouvelle parce que si vous revenez, par exemple, au procès précédent, donc on a parlé des compagnies aériennes, on a parlé du télécom. À chaque fois que ça s'est fait, ça s'est fait sur deux administrations. C'était bipartisan. La plupart du temps, au début des années 80, ça avait commencé sous Carter, fini sous Reagan. Et l'antitrust marche quand même bien quand c'est bipartisan, parce que c'est des procès qui sont tellement longs et tellement complexes que vous pouvez pas vous permettre d'avoir l'administration suivante qui cherche systématiquement à défaire ce que faisait l'administration précédente. Donc là, l'avantage, c'est que l'action contre Google et Facebook, elle a commencé sous une administration républicaine et elle va se poursuivre sous une administration démocrate. Donc on pourra pas dire oh, c'est une vengeance démocrate ou une vengeance républicaine. Ça, je pense que c'était très utile et je pense que Biden saura s'en servir. Parce qu'il va quand même, faut se rendre compte que c'est quoi l'objectif stratégique de Biden, de très loin? C'est de pouvoir gouverner un peu au centre et de recréer un minimum d'accord bipartisan aux États-Unis. Parce que il y a quand même une petite chance qu'il gagne la Géorgie, mais elle est quand même assez faible. Et donc il y a une grande chance qu'il se retrouve en partie en cohabitation avec un Sénat républicain. S'il veut faire quoi que ce soit d'utile à son économie, il aura besoin d'avoir un accord un peu bipartisan, le type d'accord qui a disparu de Washington depuis 20 ans. Donc son objectif stratégique numéro un en politique intérieure, c'est de pouvoir gouverner un peu au centre. D'accord. Donc il va chercher des sujets sur lesquels il y a un accord au centre.
Et la lutte contre les GAFA, c'est parfait pour cela, plus exactement. Que la lutte contre l'aérien et les télécoms.
Exactement. Alors les télécoms, l'avantage des télécoms, c'est que, enfin l'avantage, dans mon point de vue, l'avantage, c'est que quand même avec la crise du Covid, on a vu des trucs choquants. Je veux dire, on a vu des étudiants américains qui étaient assis à côté d'un McDo, sur le parking du McDo, parce que c'est comme ça qu'ils pouvaient avoir la connexion Wi-Fi pour pouvoir suivre leur classe. Ça, c'est quand même choquant. Hein. Parce que pour revenir à l'extrait que vous passiez au début de l'émission de Clinton, qui comparait les télécoms de la loi de 96 à l'initiative de construction des autoroutes de Eisenhower. Ben, les autoroutes, ça a marché et ça a désenclavé des parties des États-Unis qui étaient très enclavées. Sur le numérique, ils ne sont pas allés assez loin. Vous avez toute une partie au centre du pays qui n'a pas accès à l'Internet au débit.
Mais la crise va faire bouger les choses, selon vous?
Ah bah, ça a montré que c'était un vrai coup social quand même. Mmh. Les gens sont au courant. Quoi. Ils s'aperçoivent que le fait de ne pas avoir Internet à haut débit, ça devient un handicap qui est juste inacceptable. Et donc, je pense que du coup, ça va pouvoir donner un petit peu de motivation pour faire quelque chose sur les monopoles des télécoms.
Merci beaucoup, Thomas Philippon. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet entretien depuis les États-Unis. Votre livre n'a pas été traduit en français, je crois.
Il est en train de se traduire, il va sortir, je sais pas quand en fait, mais il sortira au seuil cette année, je crois.
D'accord, j'en rappelle tout de même le titre en anglais pour nos auditeurs anglophones, The Great Reversal, How America Gave Up on Free Market. Ça s'était publié aux presses universitaires de Harvard et on attend donc la traduction française. Un grand merci. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
2020 a été l'année du sauvetage d'urgence. 2021 sera-t-elle l'année de la zombification de l'économie?
Eh bien, emploi zombie, entreprise zombie, voire banque zombie, depuis quelques semaines, les pages des journaux bruissent de cliquetidos et de grincements de mâchoires pour alerter sur un risque pressant, celui que les plans de relance et de soutien n'aient involontairement entretenu avec eux des hordes d'entreprises non viables, prêtes à mordre et contaminer l'ensemble du tissu économique sain. L'alerte est venue de plusieurs institutions, la Banque des règlements internationaux, l'IFO allemand, OCDE et même la BCE, montrant tous une progression de ces entreprises plus faibles qu'elles n'en ont l'air, sinistres passagers clandestins de la croissance et de la relance. Sur 14 pays avancés, dit la Banque des règlements internationaux, la proportion est passée de 4 à 15% en 25 ans, c'est même 30% au Canada où, après Halloween, le journal La Presse se lâche, c'est l'invasion des morts-vivants. Titre repris dans Marianne d'ailleurs, car en France, le rythme de reproduction de ces zombies est alarmant, leur nombre a doublé entre 2008 et 2009 et selon la BCE, 6% d'entre elles risqueraient la faillite quand le gouvernement retirera son soutien.
Et les zombies seraient donc le prix à payer pour le sauvetage d'urgence de l'économie ?
Oui, un sauvetage censé éviter le scénario d'après 2011, l'austérité et une spirale dépressive qui conduit du chômage de masse à la récession, d'où un interventionnisme massif de l'État, 34 milliards d'euros déjà dépensés pour le chômage partiel, et une série de dispositifs de prêts garantis jusqu'à 300 milliards d'euros, prêts participatifs pour 20 milliards d'euros, voire des prêts directs en dernier recours, une sorte de glacis anti-crise, si vous voulez, ou de mise sous cloche de l'économie, explique Isabelle Bayard du Figaro, mais risqué. Car le problème, c'est qu'avec des aides peu sélectives et qui se prolongent plus que prévu, tous les États ont fabriqué ainsi leurs propres zombies potentiels en posant des pansements sur des gangrènes. Sans ces aides, dit Agnès Benassi-Quéré de la Direction Générale du Trésor, on aurait pris le risque de voir tomber des entreprises, y compris parmi les plus productives. Mais avec ces aides, c'est prendre le même risque, voire le multiplier, écrit Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Puisque si elles sont une bonne nouvelle pour les salariés, dit-il, les ressources qui continuent d'aller vers ces entreprises ne vont pas à d'autres plus efficaces. C'est le risque de porter un blessé dans la bataille avant qu'il ne vous morde.
Pourtant, les morts-vivants manquent encore à l'appel, Xavier.
Et oui, certains se dissimulent sans doute parmi les 600 000 entreprises qui ont déjà bénéficié de 125 milliards d'euros de prêts garantis, mais difficile, c'est vrai, d'en trouver la rubrique nécrologique. Par pudeur ou autocensure, suggère Hélène Baril dans le journal La Presse. On en connaît tous, dit-elle, mais on n'en nommera aucune ici, même si c'est tentant. Mais surtout, peut-être aussi parce que le soutien de l'État a brouillé les lignes entre les entreprises saines et les autres. 30% de faillites en moins en France cette année, des structures de coûts complètement déformées, dit un expert dans le Figaro, et une trésorerie ambiguë, 175 milliards d'euros d'épargne depuis mars, autant que de prêts contractés. Certains, tels le directeur de BNP Paribas, ne croient pas au scénario de la zombification, mais dans l'incertitude actuelle, poursuit le journal, seul l'optimisme ou le pessimisme permet de distinguer entre celles qui dorment sur un magot, comme le dit les Échos cette fois, et celles qui ont déjà plongé dans les ténèbres de la ruine.
Et derrière le spectre des zombies ressurgit le débat sur l'argent facile.
Oui, là, ce sont les critiques les plus vives. Pour certains, les prêts garantis, les taux bas, l'interventionnisme monétaire et budgétaire sont étroitement liés. Les zombies sont la face cachée de l'argent facile, de la politique monétaire accommodante menée depuis près d'une décennie, estime encore Isabelle Bayard. Christine Lagarde, d'ailleurs elle-même, avait salué une coopération inédite entre État et BCE, main dans la main, disait-elle, pour la relance. Et l'État, qui comptait sur les banques, devra bien effectuer en partie lui-même le tri sanitaire des vivants et des morts-vivants. Bruno Le Maire l'avait reconnu discrètement devant le Conseil européen des relations internationales dès juin. Grosse erreur de soutenir les entreprises non viables, disait-il, mais cela peut être compliqué de l'expliquer à l'opinion publique. Toute la question désormais est donc de savoir quand et comment retirer les aides et ce qui se passera lors de la décryogénisation.
C'est un débat idéologique et politique donc, Xavier ?
Ah oui, mort aux entreprises zombies, s'écrit Philippe Manière sur Europe 1, résumant brutalement la pensée d'un certain nombre d'analystes, dont un rapport de l'OCDE, qui souhaite libérer la force de travail et le capital bloqué chez les moins performantes au plus vite, au nom de la destruction créatrice schumpeterienne. L'histoire récente en montre l'intérêt, affirme d'ailleurs Marc Vigneault dans Le Point, puisque les deux tiers de la croissance depuis 2009 seraient dus à cette dynamique darwinisme, rétorque Ludovic Herman dans L'Usine Nouvelle, qui défend lui, grâce à l'exemple de la fidèle Vicky, la chienne malade euthanasiée de son grand-père, l'idée d'une entreprise sentimentale, un tout organique consubstantiel aux salariés et à tout prendre, écrit Paul Taylor cette fois dans Politico, mieux vaut risquer de se retrouver avec quelques zombies qu'avec un cimetière plein de millions d'emplois. D'ailleurs, Tiffen, du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant du travail vivant, ça ne vous dit pas quelque chose? Eh bien, vous m'en direz des nouvelles cette bonne année 2021 surtout.
Bonne année à vous aussi, Xavier Martinet, et on vous retrouve mardi pour un nouveau journal de l'Écho. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Auvine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levaché. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Demain, peut-on encore croire aux bienfaits de l'innovation? Le débat opposera les économistes Philippe Aguillon et Cédric Durand. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.